Nous sommes lundi, vous retrouverez dans ce journal comme chaque semaine, dans un instant, la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. C'est aujourd'hui la journée mondiale du cœur. Les équipes du Medipôle font passer des messages de prévention pour éviter les maladies cardiaques. Guy Raguin, distingué au championnat de France de magie, sa prestation de ventriloque très remarquée a été primée. L'actualité en métropole, toujours dominée par les réactions à la condamnation de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État affirme qu'il veut se battre jusqu'à son dernier souffle. Et puis le Danemark au centre des préoccupations géopolitiques sur fond de guerre russo-ukrainienne. L'OTAN va renforcer sa vigilance et accroître ses moyens au bord de la Baltique. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal qui se prolongera avec le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Et bonjour Jean-François.
Parmi les résultats que nous évoquerons en cyclisme évidemment, Tadej Pogacar qui conserve son titre de champion du monde sur route.
Un nouveau récital de Pogacar qui a donc conservé sa couronne au Rwanda. Kigali, théâtre de cette épreuve. Un changement de décor mais pas de vainqueur. Le Slovène s'est imposé en solitaire pour décrocher son deuxième sacre de champion du monde d'affilée dans la discipline.
La MotoGP avec le Grand Prix du Japon et un week-end où les rouges Ducati se sont mis en valeur.
Le retour du roi, 5 ans après son dernier titre, l'Espagnol Marc Marquez a retrouvé son plus haut niveau et a balayé ses années de cauchemar minées par des blessures et des chutes en série. À 5 courses de la fin de la saison, il s'est adjugé le titre, son 7e en carrière dans la catégorie reine.
Et c'est son coéquipier Francesco Bagnaia qui a remporté le Grand Prix du Japon après une grande période de disette. Et puis on évoquera le sport en Calédonie et notamment le week-end prochain du VTT.
Oui, un double événement à venir dans le Grand Sud et les fans de vélo tout-terrain qui seront ravis avec l'ultime étape du Sud Tourisme VTT Pro Tour, la Pérignon Alliance 2025. Splendide site pour des sensations qui seront au rendez-vous. Et la veille, un raid qui sera également organisé sur le même lieu au parc de la Rivière Bleue. Nous en parlerons avec l'organisatrice Julie Prunet de Pro Events.
Le magazine des sports, c'est donc l'un des rendez-vous du lundi dans Infomag. L'autre rendez-vous, c'est évidemment la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que l'on retrouve tout de suite.
Encore raté, la date du 24 septembre 2025 n'aura pas été celle de la proclamation unilatérale de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, si tant est que cette expression ait un sens, puisque malgré les espoirs des uns et les crânes des autres, l'indépendance ne peut en aucun cas être déclarée unilatéralement par un groupement politique, fût-ce par le nouveau FLNKS, qui pour le coup marche sur les pas du FLNKS historique, en fixant périodiquement une date ultime et illusoire. Cela dure depuis des décennies, et ça marche toujours, parce que dans les deux camps, il y en a encore qui y croient contre toute vraisemblance. À tel point que le nouveau FLNKS et consorts annonce, dans sa déclaration unitaire du 24 septembre, un nouveau top chimérique. À les entendre, l'indépendance sera proclamée dès que les conditions seront réunies au plus tard avant la présidentielle de 2027. Bon, ça leur laisse une certaine marge, d'autant plus qu'il faut maintenant que les conditions soient réunies, ce qui autorise une souplesse dans le calendrier. Tout cela est ridicule, et le FLNKS-CCAT n'en finit pas de se décrédibiliser, même ou surtout quand il s'adjoint les coutumiers et le PKNC dans une espèce de salmigondie où l'on ne sait plus très bien qui instrumentalise qui. Mais le nouveau FLNKS va peut-être devoir rendre des comptes et répondre de ses actions. Lors de son congrès extraordinaire du 9 août dernier, il a désavoué ses signataires en rejetant Bougival et en réaffirmant dans le même temps sa volonté de conclure un accord politique d'ici le 24 septembre pour fixer une date effective d'accession à la pleine souveraineté. Les négociateurs qu'ils ont débranchés seraient en droit de leur demander ce qu'ils ont fait de leur mandat usurpé, parce que c'est bien un coup d'État qui a eu lieu au FLNKS. À ce titre, le congrès que l'Union calédonienne réunira comme tous les ans à la mi-novembre sera un enseignement important. L'actuel président Emmanuel Tchibaou sera-t-il reconduit, contre toute logique, après son désaveu? Et sinon, qui l'UCCCAT portera-t-elle à sa tête? L'État, les partisans de la France et aussi les indépendantistes de l'UNI ont besoin d'interlocuteurs légitimes et clairement identifiés pour continuer à avancer. Tant que l'éclaircissement n'aura pas eu lieu, il est vain d'évoquer la négociation d'un complément d'accord que certains appellent de leur vœu. Le nouveau FLNKS ne veut pas d'un compromis global et dans le contexte actuel, un complément d'accord porterait trop de risques de dénaturation alors qu'un fragile équilibre a été trouvé à Bougival. Mais personne n'est dupe. Bougival est fragilisé par le calendrier national. Même si le président du Sénat fait de la Nouvelle-Calédonie une priorité législative, comme il l'a affirmé lors d'une émission de Public Sénat, où il était notamment interrogé par le quotidien La Voix du Caillou. Encore faut-il qu'il y ait un gouvernement, et les Calédoniens attendent avec impatience la constitution du gouvernement Le Cornu, qui relancera la machine parlementaire et permettra dans un premier temps le report des provinciales. Et comment, pour conclure, ne pas dire un mot sur le scandale médiatico-judiciaire de la condamnation à 5 ans de prison de Nicolas Sarkozy, relaxé des faits de corruption, de recel et de financement illégal dans l'affaire libyenne, l'ancien président de la République est condamné à 5 ans de prison pour « association de malfaiteurs », un terme qui interpelle et qui résonne curieusement en Nouvelle-Calédonie. C'est l'un des chefs d'inculpation retenu contre Christian Théin.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, elle est à retrouver sur notre site internet où elle est à réécouter aussi cet après-midi. Ce sera juste après le flash de 16h sur Radio Rythme Bleu.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS avec la question du jour. Pensez-vous que le Parlement va pouvoir adopter dans les temps la proposition de loi organique qui reporte les élections en 2026? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie. Il est 11h37. On se retrouve pour évoquer ce qui fait donc la suite de l'actualité en Calédonie. C'est aujourd'hui la journée mondiale du cœur. On en parlera dans un instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Du 3 au 5 octobre, rendez-vous à la Moselle pour la 15e édition de la Foire du Pacifique. Une édition spéciale anniversaire avec le grand retour des pays du Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande, Tahiti, Wallis et Futuna, Vanuatu. 3 jours de fête non-stop, spectacles, animations, bonnes affaires chez plus de 250 exposants et des cadeaux à gagner. La Foire du Pacifique, un événement incontournable. Info et programme complet sur la page Facebook pacificfair.nc.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
C'est donc la journée mondiale du cœur, l'occasion pour le Médipôle de passer des messages de prévention concernant les maladies cardiaques. Le docteur Marie Robin dirige le service de cardiologie du CHT et elle rappelle que la plupart des pathologies est évitable si l'on améliore son hygiène de vie.
Il n'est jamais trop tard et il n'est jamais trop tôt pour prendre soin de son cœur. Plus tôt on commence et plus on verra les effets. Voilà, il y a des petites choses à faire, simples au quotidien, que tout le monde peut faire et ça passe par une hygiène alimentaire avec des petits réflexes simples. Éviter la boisson sucrée à table, on boit de l'eau, éviter le grignotage, hein, ça c'est vraiment un fléau. Limiter les aliments gras, salés, aussi bons qu'ils puissent être, comme le soyo, le magie, le nem. Marcher, au moins 30 minutes par jour. Et puis le tabac, hein, ça c'est vrai que ça reste le tabac et le cannabis, qui est très répandu, notamment dans la population jeune, et qui est responsable de tableaux d'infarctus beaucoup plus précoces en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. On remarque une dizaine d'années de décalage, on va dire, entre le premier épisode de maladie cardiovasculaire en Nouvelle-Calédonie par rapport à la métropole. Et on a des cas fréquents, enfin quand même malheureusement régulièrement, d'infarctus, par exemple, des jeunes de moins de 35 ans. C'est quelque chose qui n'arrive que de manière très exceptionnelle en métropole.
En Nouvelle-Calédonie, la cardiologie se pratique au CHT qui est doté d'un plateau technique de qualité et d'une équipe de spécialistes qui sera bientôt au complet.
Il y a eu des grosses difficultés liées aux émeutes, mais pas que. Mais c'est vrai que depuis les émeutes, le service a connu un gros sous-effectif. On commence à voir la lumière au bout du tunnel, si je puisse dire. On espère être en effectif complet à partir de décembre. Sur le terme de l'insécurité, on a l'impression que, du regard hein, surtout des médecins métropolitains, le pays paraît un peu plus apaisé et il commence à reprendre contact avec nous. Et c'est pour ça qu'on a des perspectives qui sont bonnes pour la fin de l'année.
Pour pouvoir permettre ce recrutement, il y a le contexte sécuritaire, vous en avez parlé. Il y a aussi les techniques que vous pratiquez.
Les études de médecine, elles sont longues. Et en cardiologie, il y a différentes spécialités. Et c'est vrai que les médecins qui vont mettre 10 ans, voire même 15 ans à se former, ils ne viendront pas si on ne leur donne pas les moyens de pratiquer la cardiologie pour laquelle ils ont mis beaucoup de temps à se former. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de se développer constamment. Il y a un an et demi, l'hôpital s'est équipé d'une nouvelle technologie de pointe. Maintenant, toutes les procédures de rythmologie sont pratiquées sur le territoire. C'est vraiment une réussite sur tous les points, en fait, pour le patient, pour la santé et pour nous, l'équipe médicale.
Les cardiologues du CHT souhaitent pratiquer de nouvelles interventions prochainement, notamment l'implantation de valves aortiques par voie percutanée, appelée la technique TAVI. Cette interview du docteur Marie Robin, interrogée par Nicolas Legrand, qui est chef du service cardiologie du CHT, est à retrouver sur notre site internet rrb.nc. Les étudiants de l'UNC vont pouvoir intégrer plus facilement le réseau Polytech. Depuis 2018, l'université proposait une prépa intégrée pour l'école de Nice. Désormais, cette prépa concerne les 16 écoles du réseau, Nicolas.
Oui, il s'agit d'un parcours d'excellence avec une place garantie dans une école d'ingénieurs à l'issue de la prépa de 2 ans et demi. En intégrant cette prépa, les étudiants sont donc assurés d'avoir leur place. Alexandre Caminada, directeur de l'école Polytech Nice Sophia, est actuellement sur le territoire pour présenter ce parcours qui sécurise les étudiants.
Ça, c'est ce qui différencie une prépa générale d'une prépa intégrée, comme ce que nous proposons. Puisque dans une prépa intégrée, l'élève va passer un concours, finalement, en post-bac, pour entrer dans une prépa, dans laquelle il sait qu'au bout de sa prépa, au bout de 2 ans, il va pouvoir intégrer un cycle ingénieur. Donc il sait qu'il est dans l'école, en fait. Et ça, c'est très différent. Le concours est au début et pas à la fin. Donc il y a moins de pression. Les élèves, du coup, une fois qu'ils sont intégrés dans la prépa, ils savent qu'ils doivent travailler ensemble pour réussir tous. Ils ne sont pas en concurrence. Une fois dans la prépa, ils ont leur place réservée dans le cycle ingénieur. Donc ça facilite le travail en équipe, ça facilite l'intégration des élèves, ça facilite leur communication, ça déstresse tout le monde, c'est-à-dire y compris les élèves, mais aussi les familles et aussi le staff. Hein. Parce que tout le monde travaille ensemble pour la réussite des élèves. Il n'y a plus de sélection. Donc ce qu'on veut, c'est que 100% des élèves qui rentrent sortent et aillent vers le cycle d'ingénieur. Voilà le mécanisme, il est vraiment différent. On est dans l'école dès le départ, donc c'est un état d'esprit qui est différent.
Le réseau Polytech connaît désormais le profil des étudiants calédoniens et met tout en place pour favoriser leur intégration en métropole.
Ils sont au sein d'une petite équipe, ils sont accompagnés avec des élèves de l'école et des profs qui leur sont dédiés, qui sont leurs tuteurs d'une certaine manière. Donc pendant les 6 premiers mois, la question fondamentale, c'est la réussite de l'intégration. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Qui découvrent le territoire et qui découvrent l'école et qui se fassent des amis, ça c'est le point de départ. Ensuite, ils passent en cycle ingénieur et là, ils sont traités comme les autres. Donc à la fois, le fait qu'on ait l'expérience déjà et qu'on ait aussi la population qui demande à pouvoir faire ce type d'études, bah, tout ça fait que, avec la collaboration avec l'UNC, donc ça a ouvert des portes formidables, c'est fantastique. Tout le monde est enthousiaste et là on démarre avec 6 élèves qui ont été admis cette année pour faire cette prépa intégrée. Donc c'est un très bon point de départ, puisque jusqu'à maintenant on était plutôt sur des volumes de 1 à 5 élèves. Et donc là, dès la première année, on dépasse le volume maximum qu'on avait fixé auparavant. Donc on est très content.
Et l'ouverture de ce partenariat entre l'UNC et Polytech à l'ensemble du réseau d'écoles permet aux Calédoniens d'accéder à davantage de formations qu'auparavant.
C'est le propre du réseau. Donc, par exemple, les mines de nickel sont une activité économique très importante pour le territoire. Et nous n'offrons pas à Nice de formation d'ingénieurs dans le domaine des matériaux, typiquement, ou dans le domaine de la mécanique. Par contre, il y a d'autres écoles qui le font. Et là, ça change tout. Ça veut dire qu'un élève pourra venir à Montpellier, par exemple, pour faire une spécialité que nous n'offrons pas à Nice et répondre mieux aux besoins qu'il a dans le territoire. Alors, un élève va pouvoir se dire « Moi, je veux faire plutôt système embarqué, auquel cas, il va aller dans telle ou telle école. Moi, je veux faire plutôt des télécoms et du réseau. Ça va être encore une autre école. » Donc, vraiment, en ouvrant le spectre, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, il s'agit de couvrir les besoins actuels. Il s'agit aussi de préparer sur des besoins futurs et qui peuvent permettre aux jeunes qui ont l'audace et qui acquiert le savoir-faire et les sciences aussi, le savoir en sciences, de créer des choses nouvelles qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur le territoire et qui peuvent être autour de l'exploitation marine, de l'exploitation agricole, du spatial. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire.
Alexandre Caminada, le directeur de l'école Polytech Nice-Sophia, qui donnera une conférence demain à 18h à l'amphithéâtre Guy Agnel de l'UNC à Nouville pour présenter ce cursus. Il est accompagné de Philippe Lorenzini, le directeur des admissions Polytech Nice-Sophia.
Radio Rythme Bleu, 11h44.
Guy Raguin, heureux. L'artiste bien connu des Calédoniens ayant participé au 58e congrès de l'illusion à Troyes en métropole. On en a parlé évidemment ce week-end. Et lors des différents concours dans ce championnat de France de magie, il a terminé premier du concours dans la catégorie Arts Annexes. Il nous a fait part de sa réaction à l'issue de la cérémonie.
Je suis extrêmement heureux. Je suis sur un petit nuage. Je viens tout juste de sortir de ce 58e congrès français de l'illusion et j'ai obtenu le 2e prix. Je suis trop heureux. Je suis donc vice-champion de France de magie dans la catégorie des arts annexes. Et il n'y a pas de premier prix. Voilà, il n'y a personne devant moi. C'est juste que je n'ai pas obtenu assez de points pour être premier prix. Mais je me satisfais grandement de cette belle récompense. Parce que j'ai reçu un tsunami d'amour de la part du public depuis 2 jours qui m'arrête dans la rue, dans les restaurants et qui me remercie, qui me complimente pour ma prestation sur scène. Et rien que ça, j'étais déjà très très heureux. Et je pense que j'ai représenté fièrement mon caillou d'amour. Je vous dis tata bisous et à très vite.
Voilà, Guiraguin heureux. Et on l'est avec lui pour cette très belle prestation au 58e congrès de l'illusion. Il a concouru, lui, dans la catégorie ventriloquie avec sa marionnette baptisée Léo, avec un show spécialement conçu pour ces championnats de France. 11h45, une deuxième pause dans ce journal. Dans un instant, on évoque l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et dans le monde. On retrouve Jean-François Bodin.
Et d'abord l'actualité en métropole. 3 jours après la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison, avec exécution provisoire, même si la mise en détention a été décalée, continue de susciter le débat public. Plusieurs pétitions circulent pour apporter un soutien à l'ancien chef de l'État après la décision de justice prononcée dans l'affaire du financement illégal de la campagne présidentielle de 2007. Même si Nicolas Sarkozy a été relaxé des principaux chefs d'inculpation, hormis association de malfaiteurs. Dans une longue interview accordée au journal du dimanche, Nicolas Sarkozy affirme vouloir se battre jusqu'à son dernier souffle. Et cette décision de justice suscite des commentaires dans la classe politique. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Amis ou adversaires de Nicolas Sarkozy, tous s'interrogent à minima sur la motivation du jugement de l'ancien président, son ancien conseiller à l'Élysée, Henri Guénaud, sur Europe 1 et CNews.
Qu'est-ce que ce procès ? C'est le premier procès sans preuve assumé comme tel par la justice elle-même.
Ce qui suscite la gêne, c'est d'une part sa condamnation à une peine de prison malgré l'absence de financement illégal de campagne, mais aussi et surtout l'exécution provisoire qui condamne Nicolas Sarkozy à aller en prison, même en faisant appel, l'ancien Premier ministre François Bayrou.
S'il n'y a pas menace immédiate sur la sécurité publique, le double degré de juridiction, c'est un droit de la démocratie.
L'argument est partagé jusqu'au Rassemblement national, Sébastien Chenu, le vice-président du parti.
Si en appel, il gagne, il aura donc vécu derrière les barreaux, ce qui cause un dommage irrémédiable. Donc on voit bien que cette exécution provisoire, elle est utilisée aujourd'hui comme volonté vexatoire, humiliante.
Et Nicolas Sarkozy, qui confie dans le JDD avoir reçu le soutien de milliers de Français, s'est également entretenu par téléphone avec Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu.
En bref, le retour de Michel Barnier à l'Assemblée nationale. Grâce à des législatives partielles à Paris, l'ancien Premier ministre a été élu député. Il s'impose avec plus de 60% des suffrages sur la socialiste Frédérique Bredin. Michel Barnier retrouve un siège de député qu'il n'avait pas occupé depuis 32 ans. Une nouvelle agression violente et ouvertement antisémite. Elle a eu lieu dans l'Essonne, à un arrêt de bus. Un homme de 67 ans qui portait une kippa a violemment été agressé par un autre homme qui lui a porté un coup à la tête. Une fois à terre, il s'est acharné sur sa victime qui souffre de multiples contusions. Une nouvelle agression dénoncée par le président du CRIF, Jonathan Arfi.
Aujourd'hui, dans certains quartiers, quand on se promène et qu'on est identifié comme juif, on prend un risque supplémentaire d'agression. C'est terrible, personne ne devrait être agressé en France physiquement au nom de son appartenance. Quand quelqu'un a peur dans la rue d'afficher qui il est, c'est toute la République qui, je crois, régresse.
Jonathan Arfi, le président du CRIF. Et puis c'est une tendance qui inquiète de plus en plus les agriculteurs dans certaines régions. Les vols dans les champs se multiplient, à tel point que certaines exploitations sont menacées. Le reportage en Aquitaine de Charles Lhuillier.
Ce n'est pas la première fois que le verger d'André Foussa est touché par les vols.
La première fois qu'ils ont dégonté le portail, là, ils sont rentrés avec un camion, ils m'ont pris motoculteur, tout ce qui s'ensuit. De matériel agricole, ils m'en ont pris pour 3500 euros. Et plus les légumes.
Des légumes, des fruits qui depuis quelques semaines disparaissent, à tel point que son verger d'un demi-hectare a été vidé.
Il n'y a plus une poire sur ce poirier. Tout a été pris aussi comme celui-là. Il y avait deux cognassiers, vous voyez. Ils en ont pris la moitié et celui de derrière, il n'y en a plus.
Mais l'estocade a été portée cette semaine. Deux rangées entières de pommes de terre ont été volées avec une propreté chirurgicale.
Les pommes de terre, ça s'est fait en deux nuits. C'est 350 kilos. Ils étaient sûrement plusieurs. Il y avait ceux qui arrachaient et ceux qui faisaient le transfert sur le camion.
Le coup de grâce pour André Foussa et ses 86 ans.
À mon âge maintenant, je vais tout laisser tomber. Après moi, le déluge.
Face à l'explosion de ces vols dans la région, certains agriculteurs choisissent de dormir sur leur exploitation désormais, fusil à portée de main. La Magdeleine, Charles Lully, Europe 1.
L'actualité à l'étranger, le Danemark au centre des préoccupations géopolitiques en Europe sur fond de guerre russo-ukrainienne. Ces trois derniers jours, des drones ont violé l'espace aérien danois. Deux d'entre eux ont même survolé deux sites militaires. La Russie dément être à l'origine de ces survols, mais l'OTAN va tout de même réagir et renforcer sa vigilance et ses moyens. Moyens de renseignement, de surveillance et de reconnaissance avec le déploiement d'une frégate de défense aérienne en mer Baltique. Il faut dire que le Danemark occupe une place stratégique. Wilfried de Villers pour Europe 1.
S'il demeure pour l'instant impossible de savoir précisément d'où viennent ces drones, les autorités danoises soupçonnent Moscou de mener ce qu'elles qualifient de guerre hybride. Et pour cause, la Russie aurait de bonnes raisons de déstabiliser le Danemark. Au premier rang, en termes de défense de l'Europe face à la menace russe, Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes.
C'est un pays qui a annoncé, il y a à peu près une semaine, qu'il voulait acquérir des armes de précision de longue portée, notamment américaines. Et donc, naturellement, cela ne plaît pas du tout à Moscou. C'est un pays qui est aux avant-postes, qui est dans la mer Baltique.
Le Danemark, qui assure également la présidence tournante de l'UE et accueillera mercredi et jeudi prochain un sommet consacré à la sécurité européenne. Sans oublier que le pays est également un grand soutien de l'Ukraine. En trois ans, il a fourni plus de 10 milliards d'euros d'équipement à Kiev et il devrait être le premier à accueillir une usine militaire ukrainienne sur son sol. Et si la Russie dément formellement être à l'origine de ces incursions de drones, plusieurs pistes mènent vers Moscou, notamment celle de navires suspectés d'avoir joué un rôle dans ces opérations. Patrick Martin.
Il y aurait de fortes probabilités qu'ils viennent de navires fantômes de la mer Baltique. Vous savez, ces navires qui transportent de façon cachée le pétrole russe vers l'Europe.
Deux cargos et un pétrolier liés à la Russie ont été détectés dans la mer Baltique au large du Danemark en début de semaine, au moment des premières incursions de drones dans le pays.
Le reste de l'actualité à l'étranger. En bref, Benjamin Netanyahou est à Washington. Le premier ministre israélien doit rencontrer demain le président américain à la Maison-Blanche. Donald Trump doit lui proposer un plan de paix global qui aurait reçu l'aval de nombreux pays étrangers, y compris le Qatar et l'Égypte, pourtant proches du Hamas. Ce plan prévoit entre autres l'arrêt des combats selon des modalités qui n'ont pas été rendues publiques, ainsi que la libération des derniers otages israéliens contre celle de milliers de prisonniers palestiniens. Et puis la monnaie iranienne en chute libre, le réal iranien s'est littéralement effondré alors que l'ONU a rétabli les sanctions économiques contre le régime de Téhéran, accusé de violer le traité sur le nucléaire. Cela fait 10 ans que ces sanctions avaient été levées. Il est 11h53, c'est la fin de ce journal.